Le monde en partage. Radio Centre-Ville. Thibaut Temmerman.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. La diplomatie américaine, fin de la superpuissance, c'est le thème que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Vous me direz qu'il s'agit d'une question qui ne date pas d'hier et que la constitution progressive de nos sociétés en un monde multipolaire semble apporter une réponse claire à cette question. Oui, pour les États-Unis, ce 21e siècle est placé sous le signe de la fin de la superpuissance. Du reste, cela a-t-il seulement été une réalité ? On est en droit de le questionner. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, d'un peu plus inquiétant aussi pour certains, c'est de se dire que nous sommes les témoins de ce basculement de la réalité du monde. Les États-Unis continuent d'intervenir dans différentes régions du monde, si des y engagent également, mais avec quelle efficacité ? Et par ailleurs, face à chaque nouveau péril, les États-Unis doivent maintenant tenir compte de la certaine fébrilité de la Russie et de la Chine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, de pays très sourcilleux en matière de souveraineté. Si on ajoute donc à cela la question de la crise économique et financière qui se poursuit et accapare toutes les énergies, on voit bien que tous les ingrédients sont réunis pour modifier la manière dont les États-Unis doivent désormais aborder les questions internationales. Mais pour discuter plus en avant de ces évolutions, j'ai le plaisir d'avoir avec nous en studio Julien Toureille. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'UQAM, mais surtout directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Alors, parlons dans un premier temps, si vous le voulez bien, de ce qui fait l'actualité avant d'aborder les évolutions possibles de la diplomatie américaine. Pour nos auditeurs au fait de l'actualité, il ne leur a pas échappé que les États-Unis traversent depuis quelques jours une période de shutdown. Donc je vais vous demander de nous expliquer en quoi cela consiste. Mais est-ce que cette situation peut avoir des répercussions quelconques sur la diplomatie américaine ?
Tout d'abord, pour rappeler en quoi consiste ce shutdown, c'est la fermeture partielle donc du gouvernement fédéral et de ses administrations parce que le Congrès et le président n'ont pas réussi à s'entendre sur l'adoption d'un budget. L'année fiscale aux États-Unis commence le 1er octobre et se termine donc le 30 septembre. Ce qui s'est passé très techniquement, dans le fond, c'est que le Congrès, en particulier la Chambre des représentants dominée par les Républicains, ne s'est pas entendu avec le Sénat, la Chambre haute, où les démocrates sont majoritaires, pour adopter un budget et l'envoyer au président Obama pour sa signature et sa mise en œuvre. Ça donne lieu à un spectacle qui est pour le moins savoureux, s'il n'était assez embêtant d'un point de vue de la pratique américaine de la politique étrangère, puisque même si on constate que les questions de défense et de politique étrangère font partie de ce qu'on appelle le domaine essentiel et qu'il y a encore quand même pas mal de fonctionnaires qui travaillent, que ce soit au département de la défense ou au département d'État, il y a quand même des conséquences très concrètes à cette fermeture partielle du gouvernement. On voit par exemple que les activités de renseignement, on l'apprenait il y a quelques instants, sont au ralenti aux États-Unis, notamment lors d'une audition à la Chambre des représentants ou en commission pardon, au Sénat vendredi 4 octobre, le patron de la fameuse agence de sécurité nationale, la NSA, évoquait les difficultés qu'il avait parce que il y a moins de civils qui travaillent pour l'agence et donc qui considèrent que la vulnérabilité des États-Unis vis-à-vis de l'espionnage étranger en ce moment est accrue. Un autre exemple concret des impacts de cette fermeture partielle, c'est le séjour que doit mener Barack Obama en Asie, dont les étapes ont été réduites et on ne savait pas au moment où on se parle s'il pouvait assister ou non au sommet de la CEAN.
On dit que les décisions au sein de la Maison-Blanche se prennent au sein d'un comité assez restreint de personnes très proches du président Barack Obama. Est-ce aussi le cas en matière de diplomatie, de politique étrangère ?
Oui, et là, Barack Obama s'inscrit dans une lignée, dans une tendance en fait qui est assez longue, qu'on pourrait voir remonter au milieu des années 40 avec la création de cette fameuse institution qui est le Conseil de sécurité nationale, avec à sa tête le conseiller à la sécurité nationale, donc créé en 1947, qui a pour fonction d'aider directement le président dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de défense des États-Unis. Donc, cette institution a eu pour effet, depuis, encore une fois, 1947, de concentrer le lieu de pouvoir en matière de politique étrangère auprès de la présidence. Et donc, Barack Obama ne déroge pas à cette tendance. Et on pourrait même dire qu'elle a été encore plus renforcée par rapport à ses prédécesseurs immédiats, puisqu'il semblerait que le cercle décisionnel de politique étrangère se résume peut-être à un peu moins d'une dizaine de personnes. Et ce qui est assez intéressant par ailleurs avec Barack Obama, c'est qu'on constate que les personnes les plus influentes en matière de politique étrangère ne sont pas nécessairement des spécialistes de politique étrangère, ce sont avant tout...
Ce qui peut être inquiétant.
Ce qui peut poser des problèmes, oui, parce que ce sont avant tout des spécialistes de politique intérieure, des gens qui font en sorte que le président, dans ses décisions de politique étrangère, prend en considération énormément l'état de l'opinion publique américaine. Alors, on pourrait dire que c'est une bonne chose, hein, un système démocratique, mais ce sont avant tout des opérateurs politiques qui conçoivent toutes les décisions de politique étrangère en fonction d'un agenda de politique intérieure et pour, si vous voulez, avoir l'appui de l'opinion publique.
Est-ce que parmi ce cercle très restreint, on compte au moins l'actuel secrétaire d'État américain, John Kerry ? Puisque les secrétaires d'État américains, pour le meilleur ou pour le pire, ont présidé régulièrement aux destinées du monde. Je pense à Kissinger, à Madeleine Albright, par exemple.
Oui, alors on n'a pas de secrétaire d'État aussi influent que l'était Kissinger. On pourrait même parler d'anomalie dans son cas-là, d'autant plus que ensuite il a cumulé les chapeaux de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale, ce qu'en faisait un personnage très puissant sur l'administration Nixon. Et le cas de John Kerry en ce moment est très intéressant. Bon, on n'a peut-être pas encore assez de recul par rapport à son mandat à la tête du département d'État, puisqu'il n'y arrivait qu'en début d'année 2013, mais il semblerait que lorsqu'il était encore au Sénat, notamment lorsqu'il était président de la commission du Sénat sur les affaires étrangères, il semblait avoir une influence qui, à mon sens, était un peu plus grande sur la conduite de la politique étrangère américaine. Notamment, c'était quelqu'un qui était souvent envoyé au Pakistan pour essayer d'atténuer les tensions entre les États-Unis et le Pakistan. On sait que la relation est très très compliquée, notamment du fait de l'usage de drones par les Américains qui tirent beaucoup de missiles à partir de ces outils-là en territoire pakistanais, ça suscite une vague d'anti-américanisme.
On en reparlera, oui, tout à fait.
Voilà. Et là, par contre, donc, John Kerry, on peut douter de son influence lorsqu'on regarde ou lorsqu'on pense à ce qui s'est passé dans le cadre de la crise syrienne, où il semblait se faire le porte-parole d'une volonté très ferme d'intervention armée de la part de l'administration. Il a été désavoué, pourrait-on dire, lorsque Barack Obama a parlé avec son secrétaire général de la Maison-Blanche, qui est avant tout un conseiller politique, et qui lui aurait dit finalement de se tourner vers le Congrès.
S'agissant de la Syrie, le problème aussi que l'on peut voir, c'est que, prenons une déclaration de Barack Obama dernièrement au G8 de Saint-Pétersbourg. Il rappelait qu'il avait été élu pour terminer des guerres et non pas pour en commencer une autre. Est-ce qu'il y a une fébrilité de la part du président américain à l'idée de conduire un autre conflit, notamment en Syrie?
Oui, il y a plusieurs éléments qui semblent jouer. C'est vrai que Barack Obama, lorsqu'il est arrivé en 2009, il a hérité de deux guerres, hein, l'Irak et l'Afghanistan, qui étaient largement impopulaires, à commencer par celle en Irak, et il avait fait toute sa campagne pour arriver à la Maison-Blanche sur sa volonté de désengager les forces américaines de ces conflits-là. Sur la Syrie, ça a évidemment joué, d'autant plus que l'exemple irakien ou le traumatisme irakien laissait craindre à Barack Obama que les forces américaines se retrouvent impliquées dans un bourbier encore plus complexe peut-être que celui de l'Irak. Il voulait absolument pas reproduire ça. C'est pour ça que lorsqu'on planifiait l'opération militaire du côté de Washington, on insistait bien sur le fait qu'il n'y aurait pas de soldats américains de déployés sur le terrain. Mais l'autre élément qui me paraît encore plus intéressant, c'est que Barack Obama ne semblait pas vouloir dépenser du capital politique, dépenser de l'énergie dans un conflit qui lui apparaît somme toute secondaire par rapport aux ambitions qu'il a pour son second mandat. mandat. Alors c'est malheureux à dire que la Syrie est secondaire, parce que c'est quand même un conflit qui est très grave dans la région, mais on sait que Barack Obama, pour son second mandat, a deux objectifs, deux ambitions très claires. La première, c'est un peu à l'image de ses prédécesseurs, d'œuvrer sur le dossier du conflit israélo-palestinien. Là, les perspectives me paraissent assez peu réjouissantes, si on peut s'exprimer ainsi. L'autre dossier sur lequel il veut travailler, c'est évidemment ouvrir un dialogue avec l'Iran. On l'a vu dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour ouvrir une discussion sur la question du nucléaire iranien et au-delà sur la question de l'influence de l'Iran dans la politique régionale au Moyen-Orient.
On va poursuivre cette discussion avec une sélection musicale cette semaine sur le thème de la paix et l'on commence avec un de mes artistes préférés, Caetano Veloso, couramment surnommé le Bob Dylan du Brésil, et il nous chante Samba em Paz.
O samba vai crescer quando o povo perceber que é o dono da jogada. O samba vai vencer, pelas ruas vai correr uma grande batucada. Samba não vai chorar mais, toda gente vai cantar, o mundo vai mudar e o povo vai cantar um grande samba em paz.
De Caetano Veloso, qui parle du jour où le chant et la danse adouciront le monde et réuniront chacun d'entre nous. Et ben oui, ça fait du bien de rêver un petit peu en ce lundi matin. Vous êtes toujours à l'écoute du 5FM et du Monde en Partage. Nous évoquons la diplomatie américaine et Julien Toureille, directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM, est avec nous pour nous en parler. On se demande si les États-Unis sont toujours aussi vigilants quant aux destinées du Proche-Orient, et on en parlait justement, vous en parliez en première partie. Il semble davantage intéressé par la question de renouer des relations avec l'Iran, la question du nucléaire iranien plutôt que de la Syrie. Pour quelles raisons ?
Il y a plusieurs facteurs qui devraient être pris en compte, mais si on veut être assez simple et ne pas se lancer dans des explications qui pourraient durer manifestement au moins une journée, on pourrait voir deux éléments majeurs. Le premier, c'est une forme de lassitude de la part des États-Unis, de l'opinion publique et des dirigeants américains à se retrouver impliqués dans une zone géographique, le Moyen-Orient, qui n'est pas si stratégique que cela pour les États-Unis. Souvent, on a l'impression, par l'activisme américain qu'on connaît depuis quelques années dans cette région du monde, notamment à travers la guerre en Irak ou les tentatives de trouver une résolution au conflit israélo-palestinien, que les Américains ont des intérêts stratégiques très forts, notamment pétroliers dans la région. Sans s'intéresse à la question du pétrole, par exemple, il faut souligner que le pétrole du Moyen-Orient sert avant tout à alimenter les économies européennes et japonaises, les Américains ayant par ailleurs d'autres sources, une plus grande diversification de sources d'approvisionnement, et sur la question du pétrole, devenant de plus en plus un producteur majeur, et ça va avoir une influence considérable ou un impact majeur sur l'évolution de la diplomatie américaine et leur rapport avec le Moyen-Orient. L'autre élément vous l'évoquiez, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que l'administration Obama semble vouloir redéfinir un peu ses alliances dans la région. Ça, c'est un processus qui a été engagé finalement depuis le 11 septembre 2001, avec plus ou moins de succès. Et les Américains, on a le sentiment qu'ils veulent un peu dépasser leurs alliances traditionnelles, notamment avec un pays comme l'Arabie Saoudite, pour essayer de revoir le jeu qu'ils ont en main dans la région et faire émerger de façon plus ou moins habile et plus ou moins facile de nouvelles puissances régionales, au premier rang desquelles l'Iran. Alors évidemment, là, on se place dans une perspective qui est un petit peu plus longue. Hein. C'est pas dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois qu'on va voir ça. Peut-être que Barack Obama lui-même n'y arrivera pas, mais on sent poindre aux États-Unis un intérêt pour un pays comme l'Iran qui pourrait avoir, au-delà des menaces qu'il représente en ce moment-là, à l'heure actuelle, qui pourrait avoir donc un potentiel intéressant pour stabiliser la région. Et ce qui se passe, c'est que avec ce désintérêt ou cette redéfinition de l'intérêt américain pour le Moyen-Orient, en même temps, on constate ce fameux pivot vers l'Asie qui devient le véritable centre de gravité des relations internationales telles qu'elles se développent dans ce jeune 21e siècle. Et là, on voit que Barack Obama a déployé énormément d'énergie avec plus ou moins de succès pour recentrer la politique américaine vers cette région du monde et ses enjeux qui sont considérables d'ailleurs.
Je lisais d'ailleurs dernièrement que la marine américaine s'était redéployée à hauteur de 60% dans la zone asiatique, justement dans cet esprit de l'Asie est maintenant la zone sur laquelle nous, les États-Unis, devraient davantage influer. Puisque je parlais donc de la marine, on sent également que l'administration Obama choisit d'autres manières de pratiquer sa diplomatie. Vous parliez tantôt des drones au Pakistan. On pourrait avoir l'impression que Barack Obama est bien moins va-t-en-guerre que son prédécesseur, George W. Bush, mais en fait, on se rend compte en réalité que, pour citer un observateur de la vie politique américaine, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qu'il a troqué le marteau au scalpel. Et dans le cadre des drones, il utilise nettement plus les drones au Pakistan et ailleurs dans le monde.
Oui, c'est devenu, ces drones, l'arme de prédilection du président Obama pour assurer la sécurité des États-Unis, et ça lui vaut d'être perçu comme un président particulièrement ferme. Alors des fois, les républicains sur la scène politique aux États-Unis l'oublient, mais bien des populations dans les régions frappées par ces drones, elles, ne l'oublient pas du tout, et ça a un double effet, si vous voulez, cet usage des drones. Alors oui, c'est très efficace pour lutter manifestement contre des réseaux terroristes, et Al-Qaïda a été en grande partie décimé grâce au recours à cette technologie-là, mais en même temps, l'effet négatif, c'est que ça alimente un anti-américanisme profond qui peut avoir des répercussions et qui peut être menaçant à un petit peu plus long terme. Il faut d'ailleurs savoir aujourd'hui que les États-Unis, l'anti-américanisme, dans des pays comme le Pakistan, ou même comme la Jordanie, comme le Yémen, est beaucoup plus fort maintenant qu'il ne l'était sous George W. Bush. Donc, c'est pour dire l'effet à double tranchant, encore une fois, de l'usage de ces drones. Mais on est avec cet armement-là dans une logique américaine qui remonte finalement au début des années 2000 et qui a deux objectifs. Le premier, c'est de alléger l'empreinte militaire américaine dans le monde, parce que ça crée on considère que ça crée un sentiment d'anti-américanisme. Et l'autre élément, c'est que ça coûte cher, et en période de crise budgétaire aux États-Unis, trouver des moyens de faire des économies, c'est quand même assez intéressant.
Pour terminer l'émission, puisqu'on parle également d'économie budgétaire, est-ce que vous sentez que la question de la dénucléarisation, et notamment les accords New Start conclus avec la Russie, justement, est-ce que c'est de nature diplomatique, ou est-ce qu'il y avait également des visées économiques?
Je vous dirais que ça serait une conséquence assez secondaire, parce que avant tout, l'objectif pour Barack Obama, c'était de réaliser une grande ambition de politique étrangère. Depuis même avant qu'il arrive à la Maison Blanche en 2009, il avait fait de la dénucléarisation un enjeu important. Ça lui a d'ailleurs valu d'obtenir en partie d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 2009. C'est un dossier qui lui tient à cœur, notamment pour réduire l'arsenal nucléaire avec la Russie, mais pour arriver éventuellement un jour à avoir une entente sur la dénucléarisation au Moyen-Orient, ce qui serait un héritage assez positif et tout à fait bienvenu de la part de ce président.
Merci beaucoup Julien Toureille d'avoir partagé avec nous votre analyse. Je précise à nos deux auditeurs que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux et notamment Twitter et qu'on peut donc ainsi, en vous suivant, bénéficier de données et d'articles pertinents toujours à jour sur les États-Unis. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors on poursuit en musique avec cet artiste international qui a été nommé artiste pour la paix par l'UNESCO en 1999. Il s'agit bien sûr de Céline Dion et on écoute Une colombe.
De paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Elle vole, elle cherche le soleil, elle rêve de merveilles, elle espère arriver. Elle croit qu'il y a quelque part un pays pour l'espoir. D'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message. De paix, d'amour et d'amitié. De paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait.
On écoutait une autre chanson sur la paix, Une colombe de Céline Dion. Alors pourquoi ce choix? Eh bien, il y avait quelque temps qu'il n'y avait pas eu de troisième partie dans cette émission. Aussi, je vais profiter de ce temps d'antenne pour vous parler d'un musée que j'ai découvert la fin de semaine dernière et dont je suis ressorti littéralement admiratif. Il s'agit du musée canadien de la guerre, situé à Ottawa. Je crois que c'est l'un des musées d'histoire les plus riches en termes de collection, intéressant en termes de contenu et des plus interactifs, tant pour les enfants que pour les adultes, qui m'a été donné de parcourir. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous y arrêter, je vous conseille vivement de le visiter et surtout de le revisiter, car en 6 heures et sans même prendre le temps de tout lire ou écouter l'ensemble des témoignages, je n'ai pas réussi à en faire le tour. Alors, puisque nous sommes dans une émission d'actualité internationale, parlons de cela si vous le voulez bien. En ce moment, et jusqu'au 5 janvier 2014, vous avez donc encore un peu de temps devant vous, le musée accueille une exposition consacrée à la paix, divisée en une dizaine de parties thématiques comme la négociation, la dénucléarisation ou géographique et historique comme l'Afghanistan ou Haïti. Et l'ambition de cette exposition, c'est de montrer que l'engagement en faveur de la paix, tant diplomatique que militaire, fait partie de l'histoire et même de l'identité du Canada. Alors que l'on approuve ou non cette idée-là, ce qui est intéressant, c'est que cette exposition n'évite pas la polémique, bien au contraire, elle l'affronte et présente des idées opposées. Et ainsi, on se demande si l'engagement en faveur de la paix, est-ce que c'est réellement constitutif de l'identité du Canada ? Est-ce que c'est vraiment efficace ? Et peut-on seulement défendre la paix et des valeurs de liberté par la voie diplomatique ? Peut-on réellement défendre la paix et des valeurs de liberté par la voie des armes ? Et cette volonté de confronter les points de vue se retrouve également dans les collections permanentes, où même le passionné d'histoire que je suis a appris certaines choses, comme le rôle du Canada comme base d'apprentissage du pilotage pour les soldats alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors, revenons sur l'exposition consacrée à la paix, laquelle présente, parmi de nombreux autres objets, la médaille Nobel de la paix de l'ancien Premier ministre Lester Pearson, dont le rôle fut déterminant dans la résolution du conflit de Suez. Cela procure une certaine émotion lorsque l'on se retrouve face à cet objet. Mais là encore, le musée revient sur la polémique au sujet de son intervention. N'était-ce pas une trahison envers les mères patries et en premier lieu le Royaume-Uni ? On peut y admirer également une minuscule horloge où l'on devine sculpté sur le devant un buste de femme, mais qui surtout provient des décombres d'une maison d'Hiroshima soufflée par la bombe atomique, sans oublier les nombreuses décorations militaires qui ne peuvent laisser de marbre même les personnes les plus pacifiques, puisque ces médailles sont rattachées à l'histoire personnelle et au courage de ceux qui les ont méritées. Bref, une vraie richesse des collections, du contenu accessible, une exposition vraiment intéressante qui vous propose également de partager ce qu'est la paix pour vous et comment elle est illustrée de manière musicale par exemple, mais en même temps une analyse tout de même assez fine. Vous aurez compris que je vous encourage très vivement à faire un détour par la place de Vimy où se situe donc à Ottawa le musée canadien de la guerre. Si j'avais un petit reproche à émettre, ce serait la température du musée. Il y fait frais, vraiment trop frais, ce qui explique qu'aujourd'hui ma voix légèrement voilée, vous m'en excuserez donc. Ceci met fin à notre émission pour aujourd'hui. Le temps pour moi de remercier une nouvelle fois notre invité Julien Toureille. Et toutes les informations concernant cette émission seront disponibles sur notre site internet lemondeenpartage.wordpress.com. Je vous rappelle enfin que cette émission est réécoutable en ligne ou en balado-diffusion. C'était Thibaut Timmerman à la réalisation. Vous retrouverez tout de suite le magazine Centre-Ville et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine sur Radio Centre-Ville. On se quitte avec un extrait de cet hymne international à la paix et au respect de chacun, Imagine, de John Lennon.